40 mètres, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus.
Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est évidemment 40 mètres, les gars.
40 mètres, les
gars. Ouais, bon, il y avait un peu trop de R.
C'est parce que c'est le printemps.
Le quiz.
C'est le printemps.
Exactement, c'est le printemps et c'est le thème de notre quiz aujourd'hui avec un joker chantant et que vous ne connaissiez pas.
Non.
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps.
Je ne connais toujours pas. On peut le refaire ?
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps.
Pas mal.
Michel Fugain et le Big Bazar.
And the Big Bothered.
Exact.
Et il y a également bien sûr la question twist.
Accompagné de ces hurlements, nous ne l'avons pas dit pour le joker, mais vous pouvez le jouer avant l'énoncé d'une question afin d'essayer de doubler vos points sur la question suivante si vous avez envie, puis après vous pouvez juste chanter pour le plaisir. Et la question twist, c'est la question où vous décidez, plus 1000, moins 1000, un pantalon, deux pantalons, un slip, deux slips ou un caleçon, c'est à vous de choisir.
Allez, c'est parti, le thème c'est donc le printemps, les amis, et c'est vous qui débutez, Christophe.
Charlie, music.
Ah ouais, direct. Bienvenue sur la messagerie de 40 mètres, les gars.
Le quiz.
Ça fait vraiment musique classique, déjà, pour commencer.
Vous êtes toujours en direct de Radio Classique avec Charlie Weber et Christophe Ajus. La soirée débute bien.
Oh oui. Bon, c'est quoi la question ?
Eh bien, vous venez d'écouter Le Printemps, justement. Question simple, qui a composé les 4 saisons ?
C'est vrai que c'est un peu une question simple.
Ouais, ça vient tout seul, les 4 saisons, bam.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. De Michel Delpech.
Et voilà.
Est-ce qu'il a chanté l'hiver, l'automne et...
Le printemps.
L'été.
Ah, l'été.
Oh là là.
Ah oui, Delpech.
Mais oui.
Antonio Vivaldi. Alors, j'aurais pas su qu'il s'appelait Antonio.
Non.
En toute honnêteté, donc c'est bien Vivaldi, les 4 saisons d'Antonio Vivaldi. Les quattro stagioni en italien. Opus 8, numéro 1 à 4, Hervé 269, le printemps, Hervé 315 l'été, Hervé 293 l'automne, Hervé 297 l'hiver.
C'est pour les
musiciens. Amis mélomanes et musiciens, en effet, dites-nous ce que veut dire Hervé. Hervé.
Ça veut dire c'est un prénom ?
Non, ce sont les lettres.
Ah, pardon.
Ce sont les 4 donc premiers concertos baroques de 12 concertos pour violon intitulés El cimento dell'armonia e dell'invenzione. La confrontation entre l'harmonie et l'invention, composée vers 1723 et publiée en 1725 à Amsterdam par Michel Le Sen. Leur première interprétation publique a lieu notamment à Londres et au Concert spirituel de Paris du début de l'année 1728. Depuis sa redécouverte au milieu du XXe siècle, cet hymne universel à la nature est considéré comme l'une des œuvres majeures dans l'histoire de la musique classique occidentale.
C'est vrai que c'est une des chansons classiques que tout le monde connaît.
Je dirais musique classique parce qu'il n'y a pas de paroles.
Oui, c'est vrai, ok, d'accord.
Oh. Mais, et alors, j'ai évidemment parcouru la page Wikipédia dont sont tirées ces quelques lignes. Et j'ai vu l'utilisation au cinéma. Et la première m'a quand même amusé en 1979 dans Le Gendarme et les extraterrestres. Voilà, j'ai copié-collé toute la liste, mais parce que sinon on peut retrouver également dans Old Boy, qui est un film magnifique, et également dans Intouchable de Nakash et Toledano, même Les Tuches aussi, ou encore plus récemment Mercredi, la série télé, c'est l'hiver qui est utilisé dans Mercredi.
Ok, il y a aussi Le Grand Bain de Gilles Lelouch, j'adore ce film.
J'ai pas vu.
Super film. Question numéro 2, le Joker.
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps.
Merci Michel Delpech.
Non, Michel Fugain, Bazar.
Pardon, désolé Michel. On t'embrasse. Question expression.
Trop facile.
Oui, bah question simple, je
trop
dis.
Trop facile.
Selon l'expression, quel oiseau ne fait pas le printemps ? Oui, là c'est facile.
Ah oui.
Bah, oh.
Bon, les jeunes peut-être pas.
Voilà.
On a l'explication de l'expression. Ah voilà, parce que c'est vrai qu'il n'est jamais compris.
Et bah voilà, je vais tout vous dire. Enfin, je crois.
Alors,
bon, c'est l'hirondelle, bien sûr.
L'hirondelle ne fait pas le printemps, les amis.
Merci, Christophe.
Eh oui, attention à vous.
C'est une métaphore qui explique qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il n'est pas raisonnable de tirer des conclusions générales d'un seul fait isolé.
D'accord, donc si on voit une hirondelle, ça ne veut pas dire que c'est le printemps.
Exactement,
okay.
Tout est dit. C'est une expression traduite du latin. Le proverbe trouve sa première expression chez Aristote, philosophe grec, bien sûr, 384-322 avant Jésus-Christ, de tête.
Je sais, bien c'est sûr. Pas écrit. Hein.
Non, bien sûr que non. Elle se rapporte ainsi, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, un seul acte moral ne fait pas la vertu.
Ah oui, c'est beau. Voilà. C'est vachement mieux, on aurait pu garder la fin
bah
aussi.
Ouais.
Hein.
Bah une hirondelle fait pas le printemps.
Alors que... Ah bon, pourquoi tout d'un coup la personne est de Belgique? Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Un seul acte moral ne fait pas la vertu.
Les Belges
Non, pas là. Non, on les aime bien.
Proverbes sur le même thème.
Les proverbes sur le même thème. La barbe ne fait pas le philosophe.
Ah bon?
Ça vient de Plutarque. On ne juge pas l'arbre à l'écorce.
Alors, vous nous la refaites, s'il vous plaît, avec les R où il faut.
On a un problème avec les R aujourd'hui. On ne juge pas l'arbre à l'Écosse.
Écorce, purée, c'est pas possible. Personne ne juge l'Écosse.
C'est vrai, mais les Italiens. C'est un proverbe italien.
Italien.
Les Italiens. On doit plaire par mœurs et non par robe de couleur.
Celle-là, elle est nulle.
Ouais, c'est français.
Ok.
C'est français.
Bah, justement.
L'habit ne fait pas le moine.
Célèbre.
Voilà, rue de bœuf.
Ouais.
Rue de bœuf.
Ouais, ouais.
Tout ce qui brille n'est pas or.
Ouais.
Voilà, Alain Delisle.
Ok, très bien.
Rémi Lolille.
Rémi Lolille.
Qu'on embrasse. Question numéro 3.
Dans quelle ville se déroule le célèbre festival musical communément appelé le printemps?
Ouais, ça aussi c'est facile.
Je sais.
Le printemps de
Ah ouais.
De Toulouse.
Easy,
bien sûr.
Ça sort tout seul, effectivement.
Ah oui, c'est comme l'Hirondelle.
Vous y étiez déjà, vous hein?
Jamais.
Ah bon? Ah, je croyais.
J'aurais bien aimé, ça a l'air plutôt sympa. C'est dans toute la ville. La ville a l'air belle en plus.
Je
même,
connais pas.
Même
bon,
si c'est un peu friqué.
C'est une vieille ville. Ah, c'est une ville de Bourges. Le printemps de Bourges, bien sûr.
Bien sûr.
PDB. Ah. Aussi appelé simplement le printemps. Oui. Dans le langage courant, un festival de musique en France fondé du 6 au 10 avril 77, quand même, déjà à Bourges, dans le département du Cher.
Bien sûr.
Il a été créé par Daniel Colling, Alain Meillan, chanteur et comédien, et Maurice Frotte, ancien collaborateur de Léo Ferré avec le concours d'écoute S'il pleut. Société civile d'artistes associés créée par Daniel Colling, Maurice Frotte, Alain Meillan et Daniel Borné. Voilà. Le festival a accueilli des artistes du monde entier et de tous les genres musicaux. Il y a eu U2 en 83, The Cure. Non, je crois U2 en 83, The Cure en 82 et même Public Enemy en 90.
Oh, c'est incroyable. Dingue. C'est vrai qu'on voit plus du tout de groupe comme ça là-bas. Hein.
C'est vrai.
On va surtout aller chercher les nouveaux talents.
D'accord.
À Bourges, voilà.
Ah ouais, mais Public Enemy, quoi. Je sais pas ce que ça a donné en 90 en plus.
U2, incroyable.
Oui,
quoi.
Mais c'est bon. Là, on est dans de la grande pop.
Oui,
mais
oui,
Public
mais c'est
Enemy,
vrai que
c'est
Enemy.
Un petit peu plus.
C'est vrai. Underground.
Voilà.
C'est pas underground, mais c'est un peu plus.
Merci.
Voilà.
Question suivante. Vive la vie et vive le vent et vive le printemps.
Question football, les amis.
Ouais.
Et surtout question entraîneur.
Yo.
Son nom de famille est Printemps.
Wow.
P-R-I-N-T-A-N-T. Pas vraiment Printemps.
Motus.
Oh. Il a entraîné la Côte d'Ivoire, Saint-Etienne ou encore Montpellier. Il est actuellement entraîneur adjoint à Marseille. Alors vous savez son nom de famille Printemps, mais quel est son prénom?
Jamais entendu parler de ce monsieur.
C'est vrai?
Ah mais jamais vraiment. Hein.
Ah bon?
Bah ouais.
Ok. Bon, si, il est connu quand même.
Ah bah, je vous jure, je connais pas du tout. Hein.
Bon, bah,
après, je suis absolument pas un fan de football, donc je connais rien.
Ça vient du Racing.
Bah oui, mais j'y connais rien quand même.
Oh, Ghislain.
Ouais, c'est pas Guilin?
Non, c'est Ghislain Printemps.
Ok, ça se prononce Ghislain.
Ou alors on se trompe depuis
non,
désormais.
Non, je sais pas.
Il est né le 13 mai 61 à Montpellier.
Cool.
Bien sûr, c'est un entraîneur de football français. Après une carrière comme joueur amateur au poste de gardien de but.
Ouais.
Amateur.
Amateur.
Ouais. Il devient entraîneur au Montpellier HSC, le Montpellier Héros Sporting Club.
Voilà.
Où il s'occupe des gardiens puis de l'équipe réserve. Il devient l'adjoint de Jean-Louis Gasset.
Mm-hmm.
Que vous connaissez.
Jean-Louis Gasset, oui.
Oui. Et
qui est l'entraîneur de Marseille.
Exactement, qui le suivra à la
qui est vieux.
Oui.
Voilà, bah, c'est ce que je sais.
Ghislain Printemps, il a quelques printemps d'ailleurs.
Hey, hey,
où il prendra sa place avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux en tant qu'entre...
Il est peintre?
Non, en tant qu'entraîneur adjoint. En mai 2002, il intègre l'encadrement technique de la sélection de Côte d'Ivoire en tant qu'adjoint du sélectionneur aux côtés de Jean-Louis Gasset.
Ah oui, d'accord. Donc en fait, le mec, c'est un peu le poisson pilote de Jean-Louis Gasset.
Exactement.
Là, partout où il va, quoi.
Exactement. Et là, pour la petite histoire, à la CAN, ils se sont fait virer lors des premiers matchs parce que les résultats n'étaient pas là. Et à la fin, eh bien, la Côte d'Ivoire gagne la CAN.
Ok.
Voilà. Donc
d'accord.
En fait, ils n'ont pas gagné la CAN, mais ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient pas loin. Et depuis février 2024, il a rejoint l'OM, bien sûr, en tant qu'entraîneur adjoint. Ghislain, c'était la bonne réponse. Ghislain, Printemps. Le Joker.
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps. On pense souvent être le centre du monde,
oui.
Mais n'oubliez pas qu'il existe un hémisphère sud, les amis.
Non.
Le monde d'en bas, comme on dit aux USA. Pouvez-vous nous dire, durant quel mois, il y en a trois, se déroule le printemps là-bas?
Ah ouais.
Eh oui.
C'est vrai ça.
Ah oui.
C'est un peu... à l'inverse.
Bah, et oui, c'est ça, c'est un peu à l'inverse. Mais on pense souvent à l'été et l'hiver.
Ouais, c'est vrai. Hein,
on se dit, voilà, boum. Alors, un indice, par exemple, c'est pas janvier, mais on se dit, tiens, janvier, c'est l'été en Australie.
Ah.
Eh bien, en l'occurrence, pour le printemps, c'est septembre, octobre, novembre.
Okay.
L'hémisphère sud terrestre est essentiellement marin. Eh, on ne le savait pas, ça.
Oui,
les terres émergées, 50 millions de kilomètres carrés, ne représentent que 20% de sa surface et le tiers des terres émergées terrestres.
Okay.
Entre 50 et 65 degrés de latitude sud, il n'y a quasiment pas de terres émergées. Ce qui n'est pas le cas de l'hémisphère nord. Le point culminant de cet hémisphère est l'Aconcagua. Ah oui, l'Anaconda, non, pas du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient foutre là? L'Aconga. Non, l'Aconcagua, en Argentine, plus haut sommet de la cordillère des Andes, avec 6962 mètres, et situé à 150 km au nord-est de la capitale chilienne, Santiago, Santiago de Chile.
Si.
L'Antarctique est le seul continent sans population indigène, et avec sa glace, environ 70% des réserves d'eau douce disponibles planétaires. Bon, voilà, je voulais, le reste on s'en fout un peu, mais quand même, ce qui est intéressant, le portugais. Il est la langue la plus parlée dans l'hémisphère sud,
okay.
Devant le malais indonésien et l'anglais.
Okay.
Mais le portugais est donc la première langue de l'hémisphère sud.
C'est parce qu'ils ont découvert toutes ces belles contrées à l'époque, les portugais,
oui.
Je pense, non?
Oui, j'imagine, oui, oui. Certainement ça doit être ça, merci.
Allez, le Joker!
Vive la vie, vive le vent, vive le plein temps. J'ai dit le plein temps.
Le plein temps.
Ouais, le travail à plein temps, moi, allons-y.
Capitaliste!
Il est chaud.
Ouais, je suis chaud.
Une semaine à Londres et on ne le retient
et
plus.
Voilà,
hein.
La thune. C'est très cher, Londres. Un petit clin d'œil. Selon la mythe.
Qui?
Ah, je sais pas.
À votre banquier?
Oui, si tu m'écoutes, Michel. Je connais absolument pas son prénom en plus. Selon la mythologie grecque.
Attention.
On n'a jamais eu une question comme ça.
C'est vrai?
Donc, selon la mythologie grecque, quelle déesse, lorsqu'elle retourne auprès de sa mère Déméter, coïncide avec le retour du printemps? Pas facile.
Mmh.
En gros, quelle déesse grecque représente un petit peu le retour du printemps?
C'est très chaud.
C'est très chaud.
Oui, à moins vraiment d'être un spécialiste des dieux et déesses, des mythes anciens. Mais alors, je n'en ai jamais entendu parler.
Ah ouais, c'est vrai?
Ah non.
Ok, bon, si vous avez la réponse, bravo. On ne vous enverra pas de
chocolat. Ah oui, j'espère que j'avais joué votre joker.
C'est Perséphone.
Ok.
Vous avez jamais entendu parler de Perséphone?
Non, pas du tout.
La déesse Perséphone dans la mythologie grecque, fille de Zeus et Déméter, elle est la personnification des saisons. Déméter étant la déesse de la terre, de l'agriculture et des moissons, Perséphone est aussi appelée parfois Coré ou Cora.
Ah, Cora Mundelsheim.
Exactement. C'est un peu pour ça que j'ai choisi cette question.
Cool.
Qui signifie la jeune fille. Donc quand vous allez au Cora, vous allez...
Je vais chez la jeune fille.
Voilà. Son mythe raconte comment la jeune fille s'est retrouvée condamnée entre les enfers et la terre, entre son mari Hadès, dieu des enfers, et sa mère Déméter, donc qui est la déesse de la terre, de l'agriculture et des moissons. Les 6 mois de l'année où Perséphone est auprès de son mari donnent lieu à une terrible tristesse sur la terre, correspondant à l'hiver.
Mmh.
Voilà. Lorsque le séjour de Perséphone aux enfers s'achève et qu'elle retrouve sa mère, la joie de Déméter fait fleurir la végétation de la terre, provoquant ainsi le printemps. C'est beau, non?
Ah oui, c'est beau. Perséphone, donc, déesse du printemps, quelque sorte.
Oui, ou fin des saisons, mais voilà, quand elle retrouve sa mère, ça fleurit. Quand elle n'est pas avec sa mère, elle pleure, et c'est-à-dire qu'il fait froid, et que les gens sont tristes, et que c'est l'hiver.
D'accord.
J'aime bien, je trouve ça beau, je trouve ça beau. On y va?
Bon, du printemps à l'été, il n'y a qu'un pas. Alors pardonnez-moi si nous ne sommes pas tout à fait dans le thème, mais c'est une question cinéma.
Bon, ça va alors.
Quel film d'horreur suédo-américain a pour thème le solstice d'été et ses célébrations un peu bizarres en Suède?
J'ai jamais osé le regarder.
Il est génial.
Ah ouais, non, vraiment?
Oui, vraiment, il est sympa, oui.
Bah, j'ai un pote qui allait le voir au cinéma, il l'a été, mais perturbé pendant plusieurs jours. Hein.
Ah, c'est, bah, il faut dire que c'est bien fait.
Ah ouais?
Effectivement, c'est pas terrifiant,
ouais.
Mais c'est bien filmé. Midsommar, ouais. Bien sûr,
ouais.
Bah, en fait, au début, je croyais que c'était sur le printemps. Et puis, en fait, Midsommar, ça veut dire solstice d'été. Donc, c'est pour ça que j'ai dû un petit peu tourner
autour
du truc. Et oui, et Midsommar veut dire solstice d'été en suédois. Mm. Ou Midsommar, solstice d'été au Québec.
Voilà, c'est un film, la traduction.
Voilà, c'est un film d'horreur psychologique suédo-américain écrit et réalisé par Ari Aster, sorti en 2019.
Okay.
Et bon, j'ai pas eu envie de résumer parce que on s'attend pas forcément. Moi, je ne l'avais vu sans savoir.
Ah ouais.
Je l'avais vu, pardon, sans savoir ce qui allait se passer, donc on est surpris.
Mm-hmm.
Donc j'avais pas envie de raconter plus l'histoire,
d'accord,
si ce n'est qu'effectivement, ce sont des étudiants américains qui vont rejoindre la famille d'un de leurs potes pour participer aux festivités pour le solstice d'été. Puis ensuite, ça part un peu en couille, évidemment. Ouais. Excusez-moi l'expression.
Oui, oui.
Aux États-Unis, il rapporte finalement 27,4 millions de dollars. Le 10 juillet 2019 en Suède, 591 751 dollars. Et en France, seulement 121 390 spectateurs.
Oh.
C'est vraiment peu.
C'est vrai.
Et mondialement, il a rapporté 42 millions de dollars. C'est plutôt quand même un succès.
Oh, quand même.
Et je pense qu'il a eu une seconde vie grâce au visionnage comme moi, c'est-à-dire
Netflix,
sur les plateformes.
Non, ou Prime, je crois qu'il est dispo quelque part.
Moi, c'était MyCanal, mais
ouais,
voilà.
Et voilà, ça la raconte.
La
MyCanal, ouais. Allez.
C'est la question twist. Vous devez hurler d'abord.
Oui.
Allez-y.
Attendez, on le remet.
Et ensuite, vous décidez. Si vous êtes tout seul, vous faites comme vous le sentez. Buvez un petit coup à notre santé, justement.
Santé.
Ou alors, eh bien, vous rajoutez une petite stipulation. On change de pantalon, on change d'épouse. Je reste vraiment, hein, ça fait je ne sais combien d'épisodes et c'est toujours les mêmes.
C'est vrai.
On change de pantalon, on change d'épouse. Pardon, hein, on peut changer de mari aussi. Hein, mais c'est vrai que notre taux d'écoute est très masculin.
C'est vrai. Allez, après la Suède, direction les États-Unis et le Canada.
Waouh.
C'est bien fait quand même. Pour un tout autre style de fête, les fameux congés de printemps. Vous pouvez le faire avec l'accent canadien ?
En votre sang, congés de printemps.
Merci. Vacances durant lesquelles on fait beaucoup la fête, bien sûr. Mais comment appelle-t-on ces congés en anglais ? Pour les étudiants.
C'est ça, on pense quand même plus souvent aux étudiants.
Voilà. Mais bon, c'est connu.
Ah bah oui.
On a tous rêvé d'y aller faire la fête là-bas.
Ouais, et en même temps, je suis sûr que c'est pas...
Je pense que c'est surfait.
Moi, en tout cas, je ne m'y serais sans doute pas bien intégré.
Ah bon ?
Ah bah, à l'époque où j'étais moi-même en âge d'être étudiant,
oui.
Je pense que le côté bourrin, tout ça, j'y étais pas encore, moi.
Ouais, c'est très américain. Alors, c'est Spring Break, bien sûr.
Oui.
Voilà. Et le congé de printemps tire son origine d'un entraînement de natation.
D'accord.
Organisé en 1936 à la piscine casino de Fort Lauderdale par un entraîneur de natation de l'université de Colgate. Très bonne dent.
Merci.
Sam Ingram, un premier College Coaches Swim Forum, est organisé au même endroit en 1938, attirant déjà, selon une source, 300 nageurs pour commencer à faire la fête.
D'accord.
Plus tard, au cours des années 70-80, des beuveries et toutes sortes d'excès deviennent de plus en plus fréquents. La situation pousse le maire de Fort Lauderdale, Robert Dressler, bien sûr, qu'on embrasse, à introduire un règlement contre la consommation d'alcool en public dans sa ville et même à annoncer à l'émission Good Morning America que les étudiants en vacances ne sont plus les bienvenus dans sa ville.
Ne venez pas, étudiants.
Cette décision pousse de nombreux étudiants, déjà 370 000 en 85, à se rendre plus au sud et même dans les Antilles, des campagnes, voire même des campagnes de sensibilisation ont lieu par la suite contre les problèmes de santé et de sécurité associés aux excès. Le but de Spring Break, bien sûr, est officiellement de permettre aux étudiants de s'avancer dans les travaux et aux enseignants et aux professeurs de corriger les copies. Les élèves n'ont normalement jamais de devoirs et profitent de cette semaine pour se relaxer et voyager, mais surtout pour se...
Bourrer la gueule, évidemment.
Et on connaît Cancun, Spring Break, il y a même des films, je crois, qui ont été faits sur Spring Break.
Ah bah, il y a un film qui s'appelle Spring Break, je
voilà.
crois, effectivement, mais si je ne me trompe pas, American Pie, c'est aussi, ça se passe à Spring Break.
C'est vrai.
Ouais, part une semaine.
Toute notre, la fin de notre adolescence, Spring Break était montré vraiment comme étant le summum de la fête.
C'est tout à fait.
Ouais, c'est ça. Question numéro 9.
Nous recherchons une fleur. Mais aussi une actrice. La fleur se plante en automne pour une floraison printanière. L'actrice, quant à elle, voilà, vous allez la trouver rapidement, a joué dans Le Père Noël est une ordure, Le Grand Chemin ou encore Viens chez moi, j'habite chez une copine. Vous l'avez ?
Oui. Et les Alsaciens ne l'aiment pas.
Oui.
Hein, c'est comme ça. Vous ne me ferez pas changer d'avis.
D'accord.
Vous l'aimez bien, vous ?
Bah ça va, j'étais devant ma télé le jour où elle a dit que de toute façon les Alsaciens sont tous des boches.
Voilà.
Et j'étais vénère comme jamais.
Normal.
Mais bon, la pauvre.
Bon d'accord.
Anémone.
Ok.
Anne Bourguignon, dite Anémone, est une actrice et scénariste française, née le 9 août 1950 à Paris dans le 15e arrondissement et morte le 30 avril 2019 à Poitiers dans la Vienne. Principalement connue du grand public pour le rôle de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure en 82, elle est tout de même lauréate du César de la meilleure actrice en 88 pour le rôle de Marcel dans Le Grand Chemin.
Ah, quand même.
Très beau film, Le Grand Chemin.
Ah, ouais.
Les anémones, elles, sont des plantes herbacées vivaces de hauteur modérée et munies de stolons ou de bulbes. Le genre anémone se distingue par des fleurs régulières sans espérons. 3 à 8 sépales, qui ressemblent à des pétales.
Ah, c'est pas pareil.
Une tige munie d'un involucre composé de 3 bractées verticillées, de feuilles finement découpées et d'un style à pointe courte.
On connaît bien l'anémone grâce à tout ça.
Et dans la mythologie grecque, Anémone est une nymphe dont s'éprend Zéphyr, dieu des vents. La femme de ce dernier, par jalousie, la transforma en fleur. Anémos, en grec, signifie vent.
Oh! Voilà. Voilà. Là, on finit sur une belle, parce que bon, les.
Oui, bah, je comprends rien. Les involucres nuls,
composés
alors que,
de trois bon, bractées verticellées.
Notre grand-père en commun en faisait pousser des fleurs et c'est peut-être vrai. Sans doute aussi des anémones, mais moi vraiment, il n'y a pas eu transmission, quoi.
Oui, bon, après, on peut parler fleurs sans parler d'involucres composés de trois bractées verticillées, quoi. Verticillité.
Ouais, c'est pas mal. On y a cru pendant
Merci.
Un moment.
Oh! Question numéro 10, c'est les questions astrologie, mais avant cela, le Joker.
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps.
Oui! Ghislain, printemps.
Iscat.
Question astrologie, quels sont les trois signes qui sont fêtés, entre guillemets, pendant la période du printemps, bien sûr. Facile. Enfin, facile, si vous êtes né à cette époque-là.
Indice. Ah ouais, parce que j'en ai pas la moindre idée. Et attention, dans l'hémisphère nord.
Oui, c'est vrai.
Eh
c'est
ouais,
vrai,
mec.
C'est
attention, vrai. Pense à nos auditeurs australiens.
Hi, guys. Hi, mate.
Ansi. Hoi, hoi, hoi.
Bon, c'est du 20 mars au 20 juin. Allez, un point par bonne réponse. Un point par bonne réponse. Je le refais encore une fois.
Allez.
Un point par bonne réponse.
Génial.
Et t'es bien, hein, celui-là.
Oui.
Donc, bélier.
Ouais.
Taureau.
Ouais.
Et gémeaux.
D'accord.
Bélier, c'est du 21 mars au 20 avril. Taureau, c'est du 21 avril au 20 mai. Gémeaux, c'est du 21 mai au 21 juin.
Ok.
Voilà. Les trois signes de printemps se caractérisent par leur faculté d'ouverture, de présence et leur dynamisme expansif.
Okay.
Revers de la médaille, ils rendent difficiles ou problématiques les attitudes de fermeture, les réflexes permettant de s'absenter et le déploiement des facultés de rétractation, voire de rétraction et de concentration. Rien compris à tout ça.
Ouais,
j'ai les points forts et les points faibles.
Non, ça a l'air long et interminable.
À foutre. Allez, question numéro 11.
On a évoqué le solstice d'été tout à l'heure. Parlons de l'équinoxe du printemps, maintenant.
Oui.
C'est quel jour, en fait ?
Ah oui.
Eh oui ?
J'ai failli donner la réponse avant.
Ben, moi, j'aurais donné la réponse qui est fausse.
Ah ouais ? Ah oui, parce que...
Non, ou pas.
On rajoute un jour. Un jour, voilà.
Calmos, là. Purée, j'ai l'impression qu'il y a 15 pintes, déjà.
Pardon pour...
Ça n'était pas la question twist. Et si vous écoutez avec un casque,
désolé.
On vous présente nos plus plates excuses. Et Charlie Weber s'engage à rembourser vos frais d'ORL.
Oui.
C'est le 20 mars.
Bah oui.
Le printemps est officiellement commencé depuis le 20 mars et non le 21, comme beaucoup le pensent encore. Mais alors, pourquoi cette date du début des beaux jours change-t-elle ? En réalité, il faut savoir que le printemps débute le 20 mars depuis 2008 seulement.
Oh.
Et ce n'est pas prêt de changer, puisqu'il devrait être ainsi au moins jusqu'en 2100. D'ailleurs, l'explication est simple. Le 20 mars coïncide avec l'équinoxe de printemps, où le jour et la nuit sont parfaitement identiques. Le soleil est alors aligné parfaitement sur l'équateur.
Ah, oui, j'ai vu ça. Quoi. Si on est à l'équateur, le 20 mai, pile sur l'équateur, on n'y a pas d'ombre.
Alors, ça serait plutôt le 20 mars, ou alors,
oui.
Je sais pas, il y a une autre date qu'on n'a pas...
Voyez, bon, c'était en mars, quoi. Voilà, donc si on est sur l'équateur, pile à ce moment-là, il n'y a pas d'ombre. C'est-à-dire que le soleil est vraiment pile au-dessus de vous.
Ok,
voilà.
Très bien.
J'aurais
bien.
Pu en faire une question, mais non, je ne l'ai pas fait.
Donc, le 20 mars, l'équinoxe de printemps.
Question météo.
Ah. Ah,
je sais que vous aimez bien, après, l'échelle de Beaufort, bien sûr. Celle qui...
Le fromage, on
voilà,
sait.
Voilà. Selon une expression française, durant quel mois du printemps pouvons-nous avoir la chance de voir des giboulées ?
Oui, mais là, tous les vieux savent.
Bah, les vieux.
Les vieux, ouais, ça y est. Alors, tu as pris les boulettes.
Racing. Pardon. C'est vrai que je suis en forme ce matin.
Non, terriblement.
Je suis réveillé depuis tôt, j'ai fait plein de choses, j'ai rangé, j'ai...
Ça ne se voit pas du tout.
Oh, arrêtez, c'est propre. Non, ce n'est pas propre.
Alors
oui, Mars, bien sûr, les giboulées de Mars.
Bah oui.
Alors, c'est une giboulée, on ne dit pas un giboulée.
Ah, moi j'aurais dit un aussi.
Bah oui, parce que en fait, c'est considéré comme une averse, comme une grosse averse, une giboulée.
Ok,
voilà.
Voilà quelque chose d'intéressant
bah,
dans
même,
cet épisode.
Bien sûr, généralement très courte. Une giboulée, bien sûr, accompagnée de grêle et d'un vent très fort, ces intempéries se forment lorsqu'il y a un écart important entre les températures près du sol et celles en altitude. On remarque l'apparition de giboulées quand les températures changent rapidement, parfois d'un jour à l'autre. Ces averses n'apparaissent pas uniquement entre le 1er et le 31 mars, c'est un phénomène qui marque la fin de l'hiver et le début du printemps, donc les giboulées peuvent encore tomber au mois d'avril et au mois de mai, tant qu'il y a d'importants écarts entre les températures. Voilà.
Merci.
Ben avec plaisir.
Vous aimez les asperges ?
Oui.
Ah, en Alsace notamment, cette plante est très populaire. Pourtant, la France est loin d'être la principale productrice au monde.
Ah bon ?
Alors, à votre avis, de quel pays s'agit-il ?
Je pensais que c'était nous, ça.
Ah bah, mais de loin, pas du tout, mec.
Oh là là.
Moi aussi, je pensais qu'on serait bien classé, en fait, parce que bah, ça fait partie un peu de notre culture, surtout en Alsace.
Oui,
hein.
Oui.
On salue tous nos auditeurs de Heurt,
oui.
Notamment, avec ce sol sablonneux qui fait pousser les asperges. Et en fait, c'est la Chine.
Ah bah super.
Mais alors, de loin, de ouf.
Quoi ?
Le principal producteur d'asperges est donc la Chine, avec près de 90% de la production mondiale,
non,
le mec.
Non !
90% mondiale ! Soit plus de 7 millions de tonnes. L'Europe produit en moyenne, entre 2014 et 2016, les derniers chiffres, 289 000 tonnes.
D'accord.
Et encore, en Europe, on n'est pas les premiers, hein, parce que le principal producteur en Europe, c'est l'Allemagne,
super,
suivi de l'Espagne et de l'Italie.
Oh là là.
Et nous, on fait environ 58 tonnes d'asperges en 88. Bon,
c'était un petit moment.
Je sais pas pourquoi. Ah si, oui. Et plus que 23 en 2001.
Ah bah super.
Et ceci est dû en partie à ce que la région de production principale, l'Anhangoutian, qui représentait 40% de la production du pays, avait été frappée par une très importante épidémie de fusariose. Et
oui.
Et
bon,
ça, à mon avis, c'est peut-être un coup des, peut-être
des
Chinois. Mais non.
Des Chinois.
Mais d'où elle est sortie cette épidémie? Voilà, et encore, voilà, et encore
complot,
un marché. Voilà.
Le complot.
Alors la moyenne enregistrée entre 2015 et 2017 est de 19 747 tonnes pour la France. Donc, c'est rien du tout.
C'est dingue.
Et en fait, les mêmes motifs ont eu lieu avec les mêmes effets sur la production espagnole. En 2018, en France, les principales régions productrices sont le Val-de-Loire, le Sud-Ouest et le Sud-Est.
Et l'Alsace,
bien sûr. Alors, dans son usage argotique, le mot asperge désigne plus spécialement le pénis.
Oui.
Autre métaphore d'après la forme. En particulier dans la locution « aller aux asperges ».
Ah bon ?
Ça veut dire se livrer à la prostitution, attesté chez Auguste le Breton dès 1960. Ben moi non plus, j'ai jamais entendu « aller aux asperges ». Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt pour les dames et les messieurs qui s'adonneraient à cette pratique.
Incroyable.
Et cet emploi à double sens du mot se retrouve par exemple dans le titre du roman de Frédéric Dard, « Laissez pousser les asperges ». Paru en 1993.
Je ne savais absolument pas.
Non, bah moi aussi, bon après, tout ce qui est un petit peu long, évidemment on pense au phallus, mais je ne savais pas qu'aller aux asperges, c'était s'adonner à la prostitution.
Bah bravo, merci, on apprend vraiment de belles choses.
Ah c'est formidable.
Merci Christophe. Allez, un petit joker.
Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc, vive la vie et vive le vent et vive le printemps.
Ça c'est les vraies paroles.
Oui, bah non mais tout est vrai depuis le début.
Oui, non mais je veux dire,
j'arrête pas de me cogner.
Bah oui, je vois et ça. Aïe. Et tout le monde s'en plaint.
Ah bon ?
Non, personne.
J'ai eu peur.
Le printemps, c'est le retour des fleurs, bien sûr, c'est beau, c'est magnifique, et puis c'est surtout très apprécié par les abeilles.
Ah, je pensais que c'était le moment où vous alliez nous parler de vos allergies.
Non, bah j'ai hésité à parler pollen, et j'ai dit non. Oui, bon, c'est le moment où les petites abeilles travaillent dur pour faire du miel, et bien...
Bzz, bzz, bzz. Les abeilles bzz, 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 bzz. Les abeilles.
Ah bah les abeilles. Et bien justement... Je crois que j'avais déjà fait la même chose la dernière fois.
Ouais.
Au cours d'une vie, une vie d'abeille, c'est-à-dire environ 45 jours.
D'accord.
Pas beaucoup déjà pour commencer.
Non.
Combien de quantité de miel produit-elle ?
Ok.
Indice 7 en grammes.
Ouais, je suis surpris par le chiffre.
Oui, c'est dingue. Hein.
Il en faut des abeilles.
Et exactement. C'est pas beaucoup. Voilà.
Ah
allez,
oui.
À 3 près, on vous le laisse. Après, on n'est pas là pour juger.
Non. Je sais pas ce que vous racontez.
Moi non
quoi, qu'est-ce que vous voulez juger
à 3 grammes près.
Oui, mais vous voulez juger quoi ?
Je sais pas si les gens se disent, ah, ils disent 9. En fait, c'est 7, donc c'est bien.
Oh, bah, super. Il est fatigué et fatigant à la fois. Alors, 7 grammes de miel.
7 grammes de miel par abeille.
C'est peu. Hein.
C'est dingue.
Ah oui.
C'est-à-dire 1 huitième, si vous préférez, c'est mieux, d'une cuillère à café. C'est-à-dire, c'est rien du tout.
Bah oui, c'est vraiment nada, quoi.
Donc, si on fait un compte rapide, l'abeille serait capable d'atteindre les 1 kilo de miel en 140 ans.
Purée.
Environ.
Voilà, ah oui.
Ça, c'est pour le petit
non,
plaisir.
Non, mais c'est intéressant, bah effectivement, de mettre... Dans le contexte.
Bah oui, on voit une petite abeille, on dit ah, elle fait du miel, bah elle fait pas beaucoup de miel.
Ouais.
Voilà. Donc pour produire 1 kilo de miel, il faudrait au minimum 6000 abeilles dans une ruche. Ces 6000 individus devront buter à peu près 800 000 fleurs, je dirais plutôt butiner, mais bon.
Oui, vous 800... avez sans doute oublié. Ouais. Oui, peut-être que c'est comme ça que ça
peut-être, dit. Peut-être. 800 000 fleurs en fonction de la qualité et de la quantité des pollens. Les pollens ! Chaque abeille devra alors énormément travailler. La colonie aura à parcourir près de 40 000 km de distance au total, ce qui fait à peu près la moitié de la distance entre la Terre et la Lune, et ça fait le tour complet de la planète. Les abeilles butineuses sont à peu près capables de transporter une qualité de nectar égale à leur propre poids, c'est-à-dire près de 75 mg par voyage. Donc c'est normal qu'en 45 jours, ça fait 7 grammes. Une ruche même, une ruche, regroupe plusieurs milliers de colonies d'abeilles. En été et au printemps, elles peuvent atteindre ces colonies 40 000 à 70 000 individus, un chiffre qui baissera jusqu'à 20 000 individus en hiver. On supposera alors qu'une ruche sera capable de produire environ 25 kilos de miel par an.
Ah oui.
Voilà, comme ça vous avez les chiffres. Et quand vous voyez passer une petite abeille, et bien comme ça vous allez laisser tranquille pour avoir du miel.
Bah oui, moi je laisse tranquille les abeilles.
Vous les laissez tranquilles, hein.
Une marmotte qui annonce le printemps, ça vous dit quelque chose ?
Bien sûr.
Évidemment, c'est une référence à un jour sans fin, mais aussi surtout à un événement annuel qui se déroule en Pennsylvanie. Il existe vraiment cet événement. On va voir les vrais spécialistes du film. Comment s'appelle la marmotte ?
Franchement, c'est chaud.
C'est vrai ?
Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je me souvenais plus de la...
Mais c'est une star, hein, à tel point d'ailleurs que en Pennsylvanie, comment on appelle ça ?
Un jour congé ?
Non, mais il y a un bingo de tout l'état de Pennsylvanie et c'est une marmotte qui représente ce bingo elle a un autre prénom, mais elle est surnommée la deuxième marmotte la plus célèbre de Pennsylvanie.
Génial.
Parce que la marmotte en question, qui existe vraiment, c'est Phil.
Oui. Okay.
Et son nom complet, c'est Punxsutawney Phil.
Oh.
Est une marmotte de Punxsutawney en Pennsylvanie, aux États-Unis, qui le 2 février est la figure centrale de la célébration annuelle du jour de la marmotte dans ce borough de Pennsylvanie. Phil a reçu son nom pour la première fois en 1961. Il était auparavant appelé Burr Groundhog ou The Pennsylvania Groundhog.
Okay.
Ouais, parce que Punxsutawney. Punxsutawney, à mon avis, pour le nom de ce borough de Pennsylvanie. Les origines du nom ne sont pas claires, mais les spéculations suggèrent qu'après avoir été baptisé Phil, en référence au roi Philippe, il pourrait avoir été indirectement nommé d'après le prince Philippe, duc d'Édimbourg, bien que des rois Philippe aient été nombreux. Alors, Phil et le bureau de Punxsutawney ont été représentés dans le film Un jour sans fin en 93. Oui. La ville utilisée, ça je l'ai noté parce que c'est quand même amusant, pour représenter Punxsutawney, putain, j'aurais quand même pu m'économiser dans le film. En fait, c'est Woodstock dans l'Illinois.
Le vrai Woodstock ?
Ben,
non.
Je crois pas que Woodstock était dans l'Illinois pour le festival de musique. Ça me semblait être plus dans le... Quoique l'Illinois, c'est quand même plutôt dans l'Est. Mais enfin bon.
On n'aura pas la réponse.
Oh. Non.
Punxsutawney.
Voilà.
Vas-y, refaites-le.
Punxsutawney.
C'est pas facile, hein. Pas facile. Donc Phil, et allez voir ce film si vous ne l'avez pas vu.
Oui. Oh, quand même. Allez le voir maintenant parce qu'il y a la question suivante qui arrive.
Ça, allez-y.
J'aime beaucoup Un jour sans fin, alors j'avais envie de poser une autre question sur ce film. Qui interprète I Got You Babe, la chanson qui réveille le héros tous les matins ?
Si on est mélomane, on connaît cette chanson.
Ben moi je ne la connaissais d'abord que grâce au film.
Ah oui.
Et j'ai mis beaucoup de temps à découvrir que c'était Sonny et Cher.
Eh oui.
Cher. Sonny et Cher, ouais pas Cher. Ça c'est juste Cher,
oui.
Voilà. Mais à l'époque elle était avec son compagnon,
oui,
je crois, hein, Sonny.
Qui après s'est lancé dans le multimédia et les caméras.
Ouais, oui, il y a Soufel Weyersheim dans la coiffure parce qu'on avait Sonny coiffure.
Et après il a fait du foot, Sonny Anderson.
Et voilà. I Got You Babe est une chanson donc de Sonny et Cher sortie le 9 juillet 65 et c'est quand même dingue parce que c'est le premier single extrait de leur premier album.
Ah ouais,
ils ont commencé par ça quoi.
Incroyable.
L'album en question c'était Look At Us. Elle connaît un grand succès des deux côtés de l'Atlantique, se classant en tête des ventes aux États-Unis comme au Royaume-Uni.
Direct quoi.
Elle a été depuis reprise dans de nombreuses bandes originales, dont Un jour sans fin bien sûr de Harold Ramis, qu'il a remise à la mode. Dans ce film, le personnage principal se réveille inexorablement tous les matins avec cette chanson qui passe à la radio. En 85, une reprise de I Got You Babe par le groupe britannique reggae pop UB40 avec la chanteuse américaine Chrissy Hynde rencontre également le succès, se classant à la première place du UK Singles Chart et atteignant la 28e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis et la 29e place du Top 50 en France. Est-ce que vous avez les musiques ?
Bien sûr.
J'en ai proposé deux versions. Version originale.
J'ai mis le refrain.
Ah ouais. I got you, babe. Et une reprise française.
Oh. Michel Delpech.
Je t'aime trop toi.
On reconnaît direct, hein, c'est Claude François.
Ah oui.
Et habituellement, ce que je fais, c'est que je mets les deux en même
Allez.
Temps. Comme ça,
Sonny et Cher et Claude François dans 40 mètres, les gars.
C'est inédit et ce n'est qu'ici. C'est vrai, pardon. J'aime bien parce que c'est vraiment dégueulasse quand on fait ça à chaque fois. Question numéro 17. Allez, un petit joker parce qu'on reste dans la musique.
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps.
Oh, question numéro 17. Question mot en latin.
Plus
chaud aujourd'hui un peu.
Oui.
Après le grec. Quel mot latin que l'on utilise souvent au printemps et à l'automne. À l'automne même.
Ah, purée.
Au printemps et à l'automne, donc, veut dire nuit égale.
On dirait le titre d'une chanson.
Nuit
égale.
Chanson de Étienne Dao. Nuit égale.
Je veux mettre ma bulle dans ta bulle.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah ouais, Weekend à Rome, là, lâche-nous un peu.
Oh.
Bah, par ailleurs, un peu, il me saoule, elle passe sur Nostalgie H24.
Ah, vous écoutez Nostalgie
H24.
Super.
Ah ouais. Nostalgie, le meilleur de la radio.
Je sais même pas leur. Enfin, bon, c'est pas grave. Le mot latin nuit égal, c'est Equinox.
Equinox.
On en a parlé tout à l'heure. Equinox, oui, ça pourrait faire un nom d'album. Ouais. Equinox avec nuit égale, premier single. Alors, Étienne.
Tout de suite sur Nostalgie avec Charlie Weber.
Non, non. Le nom masculin Equinox est un emprunt au latin classique Equinoxium, bien sûr.
Ouais.
Voilà, on est très fort là-dessus. Composé de Equus, égal, et de Nox, Noctis, donc.
Nuit
égale. Un équinoxe, voilà, est un instant de l'année où le soleil traverse le plan équatorial terrestre, changeant ainsi d'hémisphère céleste. Je vous ai dit qu'avant que si... Non, j'allais refaire
l'ombre.
L'ombre. Mmh. Cette définition astronomique.
C'est astronomique.
Cette définition astronomique précise la conception pré-scientifique selon laquelle l'équinoxe est le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit, plus celle de l'aube et du crépuscule. Pour les planètes dotées d'une atmosphère, étymologiquement, le terme équinoxe provient du latin.
Vous l'avez déjà dit.
Je sais. On continue ?
Ouais.
Bon, équinoxe, vous pouvez le dire. Hey, tu sais pas ce que ça veut dire équinoxe ?
Nuit égale.
Exactement. Hey, c'est pas une chanson de Étienne Dao ?
Non.
Non, question numéro 18. Allez.
Au printemps ? Mais c'est vous ça ?
Ah, oui.
Au printemps, mais c'est vous ça ? La réponse est oui. Et
oui.
Voilà, vous avez un point.
Au printemps, elles sont 7 millions à pousser aux Pays-Bas. Qui sont-elles ?
C'est pas les asperges.
Non. Je pensais vraiment qu'on était balèze en asperges.
Mais on n'est absolument pas balèze.
On est nul, quoi.
Mais non, mais en fait, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Tout désormais est chinois. Hein. Les voitures électriques, les asperges et peut-être même les tulipes.
Eh oui, puisque c'est la bonne réponse. Au printemps, elles sont 7 millions à pousser aux Pays-Bas. Les tulipes. Mais pour l'instant, je crois que c'est les Pays-Bas qui restent...
Oh, wow, je suis pas sûr. Vous avez pas cherché. Bah ouais, on sait jamais.
Alors, pourquoi autant de tulipes aux Pays-Bas, bien sûr ?
Ça, oui, ça, on a envie de savoir.
Eh bien, dans le courant du XVIe siècle, Charles de l'Écluse, s'il vous plaît, il avait introduit cette fleur originaire de l'Orient.
Et voilà, bam.
Et voilà.
Mais enfin, quoi que l'Orient, c'est pas forcément la Chine. Mais non, allez-y.
C'est en Bretagne, l'Orient.
Oh purée! Pardon!
Pardon, pardon. L'histoire d'amour a germé! Par rapport
oui,
à...
oui, 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 mais c'est pas de vous, alors non, faites pas le malin, moi, vous avez copié-collé.
C'est vrai. L'histoire d'amour a germé immédiatement. Les Hollandais, toutes classes sociales confondues, tombent en admiration devant les couleurs vives de cette fleur. Au cours des décennies suivantes, les bulbes de tulipes sont ainsi devenus un bien de luxe qui valait jusqu'à plusieurs dizaines de fois le salaire annuel d'un artisan, créant ainsi la première bulle spéculative de l'histoire.
Ah oui, oui, ça, je l'avais déjà entendu.
C'est fou. Et puis surtout, la Hollande est, grâce à ses printemps longs et ses nuits fraîches, le pays parfait pour cultiver les tulipes. Le sol dans les polders est constamment drainé. Cela crée des conditions idéales pour les bulbes de tulipes qui aiment le sol bien drainé mais humide. Voilà, comme ça vous savez tout. Vous regardez avec un petit sourire.
Bah oui, parce que bon, tout de suite vous rendez ça sale.
Ah non, mais c'est vous qui rendez ça sale.
Très bien.
Ok, bah c'est encore moi.
Oui, c'est dingue. Et où sont mes questions ?
Elles sont déjà passées, même moi j'ai. Ouais, bon, c'est comme ça. Question numéro 19, un petit joker. Allez.
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps.
J'aime bien ce petit silence avant à chaque fois. Merde, merde, c'est quoi ce joker ?
Non, je prends mon souffle, j'interprète.
Oh, c'est bien. Bravo.
Allez.
Bravo. Le Crocus sativus, vous connaissez ?
Non.
Très bien. Eh bien, c'est une plante qui pousse au printemps. Eh bien, sachez que cette fleur produit une épice qui est, elle, récoltée à l'automne.
Voilà. Oh bon, oui.
Épice que vous connaissez forcément et qui, à la vente, est un peu chère.
C'est vrai ?
Cette épice ?
C'est
ah,
cher ?
Oui. Ah oui.
Je n'en utilise pas, je ne sais même pas ce que c'est.
Oh, c'est vrai, vous connaissez quand même.
Je connais le nom, mais oui. J'avoue, on me le met devant moi, je ne saurais pas reconnaître.
Ouais, des fois, quand on demande un riz au...
Ah, au soufre.
Oui, exactement. Et ben, ne le prenez pas. Ne prenez pas le riz au soufre, mais prenez plutôt le riz au safran.
D'accord, bien oui, sûr. C'est vrai, j'aurais pas pensé au riz au safran.
Le safran est un produit agricole classé dans la famille des épices. Il est obtenu par la culture du Crocus sativus, qui est bien sûr un iridacé.
Bien sûr.
Ah, bien sûr.
Oui.
Et par prélèvement et déshydratation des pistils rouges, extrémité distale des carpelles de la plante, bien
ah,
sûr.
Ah, vous êtes chaud.
Bien sûr. Dont la longueur varie généralement entre 2,5 et 3,2 cm.
Bien
Est-ce
sûr.
Que vous avez une idée du prix du safran au kilo ?
Non.
Eh ben, pourtant, c'est écrit.
Oui.
Mais merci de bien jouer comme
Mais...
ça. Eh bien, c'est entre 35 et 45 000 euros. Le kilo.
Oui, mais on en fout rarement un kilo.
Non, bah non, c'est surtout récolté vraiment. Il y a un gramme ou un, deux grammes par plante.
Ok.
Par plante même.
Très bien.
Coûtant plus cher que l'or.
Oui,
le pistil de safran est de loin l'épice la plus chère du monde, chaque stigmate étant un trésor nécessitant un travail long et fastidieux.
Waouh.
Voilà. C'est la dernière question.
La question 20. En effet, et on se quitte en musique.
Je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui, et j'ai rien à faire. Quelle aubaine turlutaine, je marche le nez en l'air, je suis content.
C'est, ouais.
C'est vrai ça.
Qui interprète ce titre?
Pour être franc, c'est un chanteur pour enfants. Je n'ai jamais écouté de...
Non, moi non plus. Mais je reconnais la voix.
Oui, bien sûr.
J'aurais direct reconnu la voix, mais c'est vrai que je suis passé totalement à côté de ce monsieur. C'est pas la première fois qu'on le dit.
C'est vrai.
C'est Henri Dess.
Bien sûr.
Presque 8 millions de vues quand même, hein, pour cette chanson sur YouTube. Henri Dess, écoutez. C'est comme ça. Et de son vrai nom, Henri Destraz.
Ah.
Né le 14 décembre 1940 à Renens, dans le canton de Vaud.
Ah, bien sûr.
Je ne sais pas comment ça se prononce.
Si,
oui,
Vaud.
Vaud, oui, mais c'est plutôt Renens que je ne savais pas.
Ah, peut-être.
Est un auteur-compositeur-interprète suisse francophone, principalement connu pour son répertoire pour enfants. Mmh. Il reçoit de nombreuses récompenses, dont 3 victoires de la musique, quand même.
Oh.
En 95 pour L'évasion de Tony, en 97 pour Far West et en 2001 pour Du soleil. Entre la France et la Suisse, une trentaine d'écoles, crèches, centres de loisirs et salles de musique porte son nom.
Incroyable.
Eh ouais, c'est magnifique. Une resta.
Et depuis, il a fait Henri Death Metal. Et c'est vrai, hein, c'est pas une vanne.
Ah bon, ok.
Non, j'ai vu votre souffle
arriver. Ouais, non, mais...
Le jugement était là, il était prêt. Mais non, mais c'est vrai.
D'accord, ok.
Et il a vraiment refait ses titres, je crois, comme Bernard Minet d'ailleurs.
Ah oui.
Ouais, okay. Où ils font des Henri Death Metal.
Très bien, bravo à lui.
Je trouve que c'est beau, quoi.
Mais oui, mais il a l'air plein de vie, hein. En plus, non, mais je dis ça sans blague aucune, mais en ayant lu son Wikipédia, il avait, il y a quelques années de ça, dû arrêter une tournée parce qu'il était au plus mal et finalement, il est revenu en force et maintenant, il retourne dans toute la francophonie.
Ok, classe. Monsieur Henri Dess, pour les enfants, c'est toujours parfait et nous, n'avons pas grandi avec ça. Donc
non,
notre
pas
enfance,
du tout.
C'était,
désolé, Henri.
Ouais, désolé. On est déjà à la fin.
Ouais.
Un petit clin d'œil à Tony Ferreira.
Bravo Tony.
Qui a trouvé la bonne réponse. C'était bien sûr. Pas du tout. Il a pas du tout donné la bonne réponse, mais il a donné un bon commentaire. Il a écrit les Italiens.
Ok. D'ailleurs, maintenant, ça y est. Maintenant, il y a même plus de questions-réponses. Pour peu que le mec flatte un petit peu votre haine d'un pays allié, pourtant.
Ouais, on les adore. On les adore. Non, en fait, c'est Sylvain. Qui repart
Tony, lui il a le droit à tout son nom, son pédigré, tout ça, et Sylvain on ne sait pas.
Sylvain FT,
voilà.
Sylvain Feillot.
Ah bravo Sylvain Feillot.
Qui peut-être repart
le frère d'Alexandre.
Donc avec un cadeau qu'il n'aura certainement jamais.
Jamais.
Qui est la réponse, quelle était la capitale de la Suisse?
Berne.
Et ben en fait, je me suis encore trompé.
Putain, c'est pas possible.
Mais bon, la vanne est bonne, il a écrit c'est Stéphane Berne.
Ok,
on la valide. On a bien bossé encore une fois. Donc bravo à Sylvain Feillot, vous ne recevrez jamais de cadeau bien sûr. La question bonus, elle n'est pas écrite,
non.
Mais je l'ai en tête.
Okay.
Quelle est la saison qui suit le printemps?
Non, oui. vous êtes un saligo.
Quoi? C'est trop facile?
Bah non, personne ne saura évidemment. Bon, ben alors, puisque c'est évidemment trop facile, hein, n'hésitez pas à essayer de trouver des jeux de mots qui feront plaisir à Charlie ou effectivement d'insulter un pays qu'il n'aime pas et pourtant dans lequel il passe quasiment toutes ses vacances.
Ben oui, je vais toujours en Italie.
Ben je sais bien, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre, mais enfin bon.
Bon, quelle est la saison qui suit le printemps? Avant l'automne, si vous préférez.
Oui, oui.
Entre le printemps
et
l'automne.
Oui, allez, c'est bon. Désolé.
Bon, merci à tous. Vous avez reçu pour 40 mètres, les gars.
Le quiz.
40 mètres, les gars.
Le quiz.
Et on se retrouve vendredi pour 15 minutes, les gars.
Le quiz.
Merci, Christophe.
Bon, j'ai envie de dire de rien pour le coup. Mais bisous quand même.
Bisous.